tous les homicides commis au Québec, incluant les affaires non élucidées, vues à travers les archives nationales et les documents légaux. Bienvenue sur Mémoire d'archives. Ce soir, j'ai la bonne nouvelle de vous annoncer que la période des Patriotes est terminée. Pour ceux et celles, évidemment, qui n'aiment pas trop cette période-là. Je sais pas, je dis ça comme ça. Peut-être qu'il y en a qui aiment ça aussi. Des historiens en herbe et tout ça. On se transporte en 1839, le 31 janvier. Cette journée-là, bien, on va assister à une affaire de meurtre plutôt un peu plus complexe, si je peux dire comme ça. Je l'ai classé dans la catégorie des meurtres par passion. Je vais y revenir plus souvent parce que c'est quand même une catégorie où il n'y a pas beaucoup d'homicides, mais c'est quand même peut-être parmi les homicides dans cette catégorie-là qui ont attiré le plus l'attention des gens à travers le temps. Les crimes par passion, c'est-à-dire le meurtre par passion, souvent, bon, ça a été dit dans les journaux des fois, les crimes passionnels, tout ça, je n'aime pas l'appellation des crimes passionnels parce que c'est trop large. Crime passionnel veut sous-entendre souvent que le conjoint se tue après et bon, qu'il tue par passion, tout ça. Mais vous allez voir que le meurtre par passion, c'est complètement autre chose. Ça se comparait plutôt à ce qu'on appellerait communément un triangle amoureux. Ça implique souvent au moins trois personnes. Ça ne veut pas dire que les trois personnes sont coupables, mais je veux dire, trois personnes, le triangle souvent est composé une victime, évidemment, hein, parce qu'on ne parlerait pas d'homicide ici ce soir et encore moins de meurtre non résolu. Donc, ça comprend une victime, évidemment, un exécutant, quelqu'un qui va tuer la personne, qui va éliminer la victime. Et il y a une autre personne souvent qui, bon, soit une femme ou soit un homme, parce que ça arrive dans les deux cas, qui est une sorte de commanditaire. Ça me fait penser un peu aux homicides ou aux meurtres par contrat. Donc, il y a un commanditaire qui dit, bon, ben moi, j'engage quelqu'un pour tuer telle autre personne. Mais ici, au lieu d'avoir un objectif monétaire ou autre, bien, c'est plutôt un genre de contrat, si on veut. Je vais faire une balado à un moment donné là-dessus pour mieux l'expliquer, le meurtre par passion, parce qu'il y en a quand même eu quelques-uns. Puis vous allez voir le pattern qui s'installe. Il y a quand même des différences. Et c'est pour ça que même si ça a été non résolu ce soir, je peux le classer quand même, ce meurtre-là, parmi la catégorie du meurtre par passion. Alors, la victime, dans un premier temps, s'appelait Louis-Pascal Achille Taché. L'action se déroule à Kamouraska. Et bon, ben, tout se passe là, le 31 janvier 1839. Taché a été assassiné de deux projectiles d'armes à feu tirés en pleine tête cette journée-là. Et là, je tiens à le spécifier, on va le voir ensemble, qu'il y a deux contradictions sur la façon que le meurtre s'est produit. Donc, juste retenir peut-être qu'il n'a peut-être pas été tiré par une arme à feu. En fait, son corps a été retrouvé dans son manoir de Kamouraska. L'enquête a démontré apparemment assez rapidement qu'il y a un dénommé George Holmes qui se serait rendu coupable de ce meurtre. Donc, on l'a visé, cette personne-là, assez rapidement. Mais pourquoi? Voilà la question. Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il fait dans le décor, lui? En fait, il faut savoir que le mariage de M. Achille Taché, ou bon, Louis-Pascal Achille Taché, on va l'appeler M. Taché, ça va être, ça n'entachera pas sa réputation, mais ça va être plus facile pour nous autres de le prononcer. Donc, M. Taché, il était marié, lui, avec une dénommée Joséphine Éléonore d'Estimoville. Et son mariage avec la belle Joséphine s'était dégradé au fil des années. Bon, comme ça arrive dans plusieurs couples, évidemment, et je vais être d'accord avec vous là-dessus, ce ne sont pas tous les couples qui se dégradent là, qui finissent par un meurtre ou un drame pareil, mais dans ce cas-ci, ça devait arriver. Il y a toujours des éléments, des ingrédients. Bon, c'est sûr que le crime de monsieur qui a coûté la vie à M. Taché, à cette époque, à l'époque où il s'est produit, on manque de détails des fois pour l'expliquer mieux la catégorie, mais bon, on en voit quand même les grandes lignes. Bon, entre autres, pour expliquer ce qui allait pas bien dans le couple, on dit que M. Taché buvait beaucoup, donc Joséphine devait subir l'ivrognerie de son époux et son comportement violent, ainsi que ses menaces. Donc, avec ce qu'on connaît aujourd'hui, on pourrait dire, ben, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Voilà, donc, le meurtre par passion, c'est peut-être un type d'homicide qui n'a pas vraiment évolué avec le temps. Et je vais revenir avec d'autres explications pour révéler mes punchs. Je vais les garder pour un petit peu plus tard. Mais ça part quand même d'un certain désir de vouloir se séparer de la personne avec qui on était marié à cette époque-là. Donc, vous aurez compris que le meurtre par passion, évidemment, ça implique au moins un couple et qu'il y a un des deux qui veut foutre le camp. Et voilà, c'est assez simple. Donc, Joséphine, elle, à un moment donné, en a assez et elle se réfugie chez un dénommé William Henry à Sorel avec ses deux enfants. Donc, rien de moins, elle était vraiment décidée. On parle aujourd'hui du syndrome de femme battue. À cette époque-là, on ne parlait pas de ça directement. On n'a pas assez de détails non plus pour dire que c'était ça, mais probablement qu'elle a eu une certaine période où elle a hésité beaucoup là, avant de prendre sa décision, tout ça. Donc, à un moment donné, elle a quand même, il a fallu beaucoup de courage pour qu'elle décide de quitter. Mais ce qu'elle avait peut-être pas prévu, c'est qu'en quittant son mari, donc en quittant M. Taché, eh bien, elle est tombée en amour avec le fameux médecin. Du nom de George Holmes. Donc, elle l'a rencontré peut-être là, chez M. Henry. Donc, elle est tombée en amour avec lui. Peut-être que, là, je vais dans les suppositions, mais c'est assez... il devait probablement être avoir un caractère à l'opposé de M. Taché pour qu'elle tombe amoureuse de lui et tout ça. Donc, il devait certainement être plus gentil et plus à l'écoute et bon, bref. Et M. Holmes, je présume, va tomber en amour avec Joséphine aussi. Pourquoi? Ben parce que à deux reprises, il va tenter d'empoisonner M. Achille Taché par le biais d'une domestique au service de son amante. Mais ces deux tentatives-là ne réussiront pas. Ça va être deux échecs. Alors, par l'entremise de quelqu'un, lui aussi, c'est comme si... on assistait à un meurtre par contrat. La servante était engagée un peu comme une tueuse à gages pour empoisonner M. Taché. On ne disait pas comme ça à cette époque-là, mais bon, j'ai pas osé non plus parler de mettre ce crime-là sous la catégorie des meurtres par contrat, parce que ça n'en est pas vraiment un. Mais quand même, on voit qu'il y a, il y a un désir de se débarrasser de M. Taché, là, c'est assez clair. Et étant donné, évidemment, que les deux tentatives ne fonctionnent pas, ben le médecin avait de l'air assez déterminé parce qu'il a fini par se rendre à Kamouraska pour essayer de faire le contrat lui-même, si on veut, et d'assassiner Achille Taché. Et là, ce qu'on dit, c'est que c'est Yves Hébert dans le drame de Kamouraska dépasse nos frontières, point d'interrogation, qui a été publié en 2018. C'est lui qui souligne que, bon, le Dr. Holmes a tué M. Taché en le frappant à la tête avec un pistolet. Donc, nouvelle version. Ça n'a pas marché que l'empoisonnement. On était décidé à le faire, donc il l'aurait frappé avec la tête d'un pistolet, donc j'imagine la crosse. Mais au tout début, l'histoire, c'est plus les coups de feu. Et du côté de Raymond Boyer, notre fameux Raymond, qui a écrit son livre là, dans les années 60, lui a offert une version très différente. Selon lui, Holmes, qui était amoureux de Joséphine, évidemment, comme je l'ai dit tantôt, il avait effectivement, il confirme qu'il avait essayé d'empoisonner M. Taché avec la complicité d'une servante, qu'on ne sait pas, on sait pas qui, la servante, par contre. Mais devant cet échec, il a décidé d'y aller lui-même. Donc, jusque-là, la version est quand même très similaire. Toutefois, ce n'était pas, c'est pas avec un coup de crosse de pistolet que ça se serait produit. Donc, ce n'est pas dans la maison de M. on va dire comme François Legault, à la maison. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de la pandémie, mais bon, bref, j'essaie de faire mon comique, là, puis c'est pas drôle. Alors, il aurait attendu plutôt sur le bord de la route. Donc, il lui a tendu une embuscade. Alors, le docteur Holmes s'est caché avec sa carabine à la main et puis a attendu le passage de M. Taché. Et puis, quand M. Taché est passé, ben, paf! Voilà, ça a été fini. Donc, l'amant, pas l'amant, mais le mari de celle qu'il aimait, est décédé. Alors, il venait de la libérer d'un seul coup. Mais souvent, ce que les amants ne pensent pas quand ils veulent aider la femme de leur vie, de la femme de leur rêve, c'est les conséquences après le crime. Il y a toujours des conséquences après avoir tué quelqu'un, évidemment. Donc, est-ce qu'il y avait pensé à l'avance? Je ne sais pas. L'histoire le dit pas, mais probablement pas. Parce que M. Holmes a pris la fuite aux États-Unis. Et puis, après des années de débats, la demande d'extradition a finalement été rejetée par le président Van Buren. Ça a monté jusqu'au président américain, ça, cette affaire-là. Et finalement, on n'a pas accepté qu'il soit extradé. Donc, il a pu continuer à se cacher aux États-Unis. Donc là, tout ça, évidemment, c'est de la supposition. Je tiens à le préciser. On en déduit que c'est Holmes qui a commis le crime. Mais dans le fond, on n'en a aucune preuve. Il n'a jamais subi de procès. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voulait l'extrader, parce qu'on voulait lui faire subir un procès juste et équitable, comme on dit, pour rechercher la vérité. Mais en supposant qu'il ait été réellement le meurtrier, ben évidemment, c'est clair qu'il n'y a personne qui a jamais payé pour le meurtre de M. Taché. Quant à elle, la pauvre Joséphine, non seulement elle a été maltraitée par son mari, mais d'une certaine façon, elle a été abandonnée aussi par son amant. Donc, c'est elle qui s'est retrouvée avec l'accusation de meurtre, rien de moins. Elle a dû subir un procès pour le meurtre de son mari. Mais, par chance, là, je dis le soupir pour elle, parce que j'essaie de rester objectif dans ça, j'en ai aucune idée si c'est vraiment elle qui a commis le crime. Mais elle a été acquittée. Donc, voilà, elle n'a pas subi de conséquences. D'un côté, on a l'amant qui n'a jamais été extradé, donc qui n'a jamais pu répondre aux questions. Et de l'autre côté, eh bien, on a la veuve qui s'en sort plutôt bien. Et Joséphine, après ça, ben, s'est remariée avec un notaire de Québec nommé Léon Charles Clément. Et qui lui a donné 6 autres enfants. Rien de moins, ça avait l'air que c'était joyeux, joyeux de ce côté-là. Et je tiens à spécifier que peut-être que l'histoire vous a vaguement dit quelque chose, et c'est peut-être pas pour rien, parce que la romancière Anne Hébert, notre célèbre romancière québécoise, donc pour les lecteurs et les lectrices, plusieurs, elle est très connue. Elle se serait inspirée de ce crime pour son roman Kamouraska. Ça vous dit, je le mettais en quelque chose, hein? Ça vous allume une petite lumière. Eh bien oui, elle s'est inspirée de cette affaire-là pour son roman Kamouraska, qu'on a fait un film ensuite et tout ça. Donc voilà, elle a nié, je pense, Anne Hébert, là je ne rentrerai pas dans les détails de tout ça, mais je pense qu'elle avait nié de s'être inspirée d'un fait divers. Mais c'est pas mal certain qu'elle s'est inspirée de ça. D'autant plus qu'on va voir plus tard, mais j'avais déjà fait une balado vidéo là, sur mon compte YouTube là-dessus. Elle s'est inspirée d'un autre fait judiciaire, cette fois-ci, là, 100 ans plus tard, pour son roman Les Fous de Bassan. Donc, c'est pas un hasard. Alors, les faits criminels intéressent même les grands auteurs, chez nous comme ailleurs. Alors, voilà, c'est quand même très intéressant de voir ça. Alors, la criminalité fascine, oui, ça fascine. On essaie de comprendre et des fois, on comprend pas grand-chose, mais des fois, on comprend des grandes lignes. On essaie de voir la psychologie. Comme ici, on comprend que, on s'en doute fortement que c'est un meurtre par passion parce que le triangle amoureux est là. On a l'amant qui essaie même si c'est pas prouvé que c'est lui, bon, on a la Joséphine qui, elle, reste garde ses distances, mais qu'est-ce qu'elle avait promis? Est-ce qu'elle avait promis, d'ailleurs, d'abord quelque chose à M. Holmes pour qu'il tue son mari, ou s'il a agi de son propre instinct? Ça se peut, ça, que M. Holmes ait agi sans lui dire à Joséphine, juste pour lui faire plaisir. On ne sait pas. Le point G n'est pas toujours à la même place. Alors voilà, c'est le mystère qui entoure cette affaire-là de Louis-Pascal Achille Taché. Alors, qui a pressé la détente? On ne le saura probablement jamais.